Vous écoutez CILS FM.
Le projet CapWest, rendu possible grâce à l'appui financier du Fonds canadien des radios communautaires, vous est présenté par les stations
CFRG 93.1 FM, La Voix des Prairies, Gravelbourg.
CHPL 92.1 FM, Plamondon.
CIBR Radio Taïga 103.5, Yellowknife.
Et CILS 107.9 FM, Victoria.
Bonjour et bienvenue dans Sport et Santé Magazine. Des revues de presse, des chroniques et interviews, tout est réuni encore cette semaine pour vous informer et vous intéresser, toujours autour des thèmes de l'activité physique et de la santé. Bienvenue dans l'émission, c'est Alexis Gagnon au micro. Dans la première partie, je m'entretiens avec Marie-Hélène Bourret pour évoquer le phénomène de la déshydratation durant l'effort physique et pour revenir également sur la pratique du cerf-volant en Afghanistan, un sport national. Dans le versant santé de l'émission cette semaine, après le tour d'horizon des actualités en santé, je retrouve Julie Gagnon qui fera le point sur l'aide médicale à mourir. Bonne émission à tous. Vous écoutez Sport et Santé Magazine, la livraison de cette semaine commence tout de suite avec la revue de presse des actualités sportives des derniers jours. On accorde cette semaine un accent particulier aux internationaux de tennis d'Australie qui se déroulent actuellement à Melbourne. Allons-y d'abord avec la bonne nouvelle pour les Canadiens qui sont en lice, une première pour Raonic. Raonic a en effet vaincu Gilles Muller, c'est rapporté dans plusieurs articles sur le portail rds.ca. Je vous livre quelques lignes de l'analyse d'Hélène Pelletier. Il fallait tout de même le museler, ce Gilles Muller, et Miloš Raonic a su le faire en 3 manches consécutives. Rappelons qu'en 2011, notre Canadien avait abandonné à Wimbledon face à Muller tôt dans le match en raison d'une blessure à la hanche qui avait nécessité une opération. Un an plus tard, à Valence, c'est Muller qui l'avait emporté en 2-7 serrés. Bien conscient également que le Luxembourgeois Muller venait de gagner le tournoi de Sydney il y a quelques jours et d'atteindre à son meilleur classement à vie, soit 28e au monde, le défi allait être de taille et Miloš Raonic était ultra prêt en début de match. Il a volé littéralement sur le terrain, écrit Hélène Pelletier. Le Miloš version 2017, écrit-elle, est dorénavant un bien meilleur joueur. Muller était débordé comme jamais au premier set. Il ne touchait pas une seule balle en réception de service et Raonic en rajoutait en bondissant sur chaque retour de service. Le temps de le dire, soit 22 minutes et le set était bouclé. Alors l'analyse se poursuit et se rend jusqu'à la toute fin du match. Bien sûr, c'est signé Hélène Pelletier dans le portail RDS. La mauvaise nouvelle maintenant à propos des Canadiens, c'est l'élimination d'Eugénie Bouchard qui a été sortie au 3e tour des internationaux de tennis d'Australie par l'Américaine Coco Vandeweghe. Alors, Hélène Pelletier à nouveau livre une analyse de son cru. Bouchard tenait ce match, c'est le titre qu'elle donne à son article et ça en dit long en fait. On savait, écrit-elle, que Coco Vandeweghe était sur une belle lancée après avoir indiqué la porte de sortie à la 19e tête de série Roberta Vinci et à la Française Pauline Parmentier sans perdre une seule manche. Du haut de ses 6 pieds et 1 pouce, cette Américaine s'est battue grâce en majeure partie à son service, ses frappes puissantes en fond de terrain, en plus de s'arracher en se motivant à coups de come on, lancés à tue-tête durant le match. Et c'est sans parler de ses engueulades avec des spectateurs et sans oublier qu'elle a même entretenu quelques conversations méprisantes avec les arbitres. Voilà vraiment une fille made in USA qui ne s'en laisse pas imposer et qui n'a pas froid aux yeux, écrit Hélène Pelletier dans cette analyse livrée sur le portail RDS. Pour aider encore plus sa cause, la pluie a forcé les organisateurs du tournoi à fermer le toit central du stade Rod Laver, ce qui a avantagé l'américaine, comme c'est toujours le cas pour les gros serveurs et les joueurs d'attaque. Au premier set, Eugénie Bouchard tenait son bout au meilleur de ses capacités, mais la puissance de l'américaine l'a empêchée bien souvent de jouer son jeu. Et si l'américaine Coco Vandeweghe, écrit Hélène Pelletier dans cet article, jouait toujours comme ça, comme elle a joué contre Eugénie Bouchard, elle serait membre du top 5 mondial et non 35e au monde. Eugénie Bouchard le sait mieux que quiconque, écrit Hélène Pelletier. Donc vous trouverez cette analyse en date du 20 janvier dans le portail RDS. Et toujours dans ces internationaux de tennis d'Australie 2017, on a des nouvelles de Roger Federer, le grand champion de tennis qui effectue un retour. Roger Federer et Andy Murray accèdent au 4e tour, c'est rapporté par toutes les agences de presse, et je vous lis quelques lignes de la brève de l'Associated Press. Le champion de 17 titres du Grand Chelem, Roger Federer, classé seulement 17e tête de série après s'être accordé une pause de 6 mois pour laisser guérir son genou gauche, a eu besoin de seulement 90 minutes pour vaincre Thomas Berdych, 6-2, 6-4 et 6-4 au troisième tour des internationaux de tennis d'Australie. Et cette victoire a été acquise contre un joueur réputé, classé 10e au monde, qui avait vaincu Federer en quart de finale au tournoi de Wimbledon en 2010 en route vers la finale. Berdych avait participé au quart de finale, ou mieux, en Australie au cours des 6 dernières années, et il avait défait Federer lors de 6 de leurs 22 précédentes confrontations. Federer a révélé qu'il se sentait comme s'il avait joué contre des qualifiés lors des 2 premiers tours, donc il se sentait très bien au sommet de sa forme. Et il savait cependant que le degré de difficulté allait augmenter contre son adversaire Berdych. Après avoir battu Berdych, il affrontera Kei Nishikori, le japonais, 5e tête de série. Et s'il réussit à franchir cette étape, il fera éventuellement face au favori du tournoi Andy Murray dès les quarts de finale. On reste toujours dans les internationaux de tennis d'Australie qui se déroulent actuellement. L'agence France Presse nous apprend que Novak Djokovic, contre toute attente, a été éliminé du tournoi. C'est remarquable, c'est un joueur classé 117e au monde qui a sorti le champion classé 2e au monde, donc Novak Djokovic, qui s'est vu montrer la porte de sortie par Denis Istomin, et celui-ci a causé la surprise du 2e tour du tournoi en battant Djokovic 7-6, 5-7, 2-6, 7-6 et 6-4. Donc un match très long, vous l'aurez compris, plus de 4 heures. Le 117e joueur mondial était en retard de 2 sets d'ailleurs en début de match et il a haussé son niveau de jeu comme rarement auparavant au 4e et 5e set et il est finalement parvenu à éliminer Djokovic au terme d'un marathon de 4h48. Alors on va laisser le tennis, les internationaux de tennis d'Australie se poursuivre. On va se tourner vers le hockey. Le Canadien, vous le savez, le Canadien de Montréal a connu une période, disons, plus faible dernièrement, un passage à vide, une baisse de régime. Et les médias ont commencé à interroger le gardien de but étoile de l'équipe, Carey Price, qui n'a pas livré ses meilleures performances dernièrement. Donc c'est dans le portail RDS.ca, vous trouverez une nouvelle intitulée « Carey Price, je dois mieux jouer ». En effet, le gardien étoile a admis qu'il devait élever son jeu et qu'il devait mieux jouer à l'avenir. ainsi que l'équipe. Donc, c'est un aveu qui a été livré suite à une défaite contre les Penguins de Pittsburgh, l'équipe de Sidney Crosby, au compte de 4-1. Alors, on espère bien sûr que les Canadiens réaliseront un retour. Ils sont toujours premiers dans leur division. Donc, ça, c'est le bon côté, la bonne nouvelle. Autrement, du côté international, on apprend dans la presse canadienne que Maxence Parotte a décroché l'or à l'axe. Les planchistes canadiens ont réalisé un triplé à la Coupe du monde de surf des neiges à l'axe en Suisse. Et c'est le Bromontois Maxence Parotte au Québec, un athlète originaire du Québec, qui a décroché la médaille d'or de l'épreuve de slopestyle devant ses coéquipiers Mark McMorris de Regina et Tyler Nicholson de North Bay. Donc le podium était entièrement canadien à l'axe en Suisse il y a quelques jours et Parrott a mérité son premier titre en slopestyle cette saison. Et il a obtenu lors de cette épreuve 91 points au classement. Voilà qui fait le tour des actus sportives des derniers jours. On marque une courte pause musicale avec la formation acadienne John Boulay Blues Quartet et on retrouve Marie-Hélène en studio dans quelques minutes. Elle nous offre aujourd'hui deux nouvelles chroniques sportives et nous allons notamment parler du phénomène de la déshydratation. À tout de suite.
J'aime ta belle robe rouge, j'aime tes beaux colliers, j'aime te voir danser. Ouh! Comment tu bouges, on a toute la soirée, rien que minuit moins quart, y'a du monde qui parle, y'en a qui veulent danser, moi je veux faire. Ça saute, sortez les tables dehors, rien que des nuits moins tu danses avec moi, ben on va s'amuser. Oh, danse pas avec lui, viens faire un nouvel ami. Laisse le fret dehors, rien que des nuits moins corps. Restera de la bière, puis qu'il restera du fort. Le party continue, l'horloge est dans la rue. T'es gréé pour 20 ans, y'a que des nuits moins
Sport et Santé Magazine se poursuit. Merci d'être à l'écoute. Je retrouve en studio Marie-Hélène, notre fidèle chroniqueuse sport. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Alexis.
Alors, on aborde aujourd'hui non pas un sport insolite, un sport impossible, un sport dont on n'a jamais entendu parler. C'est un sport que tout le monde connaît.
C'est un sport que tout le monde connaît, c'est la déshydratation. Alors, comment se pratique ce sport, la déshydratation?
Ben, c'est pas difficile, la déshydratation. J'en parle parce que j'ai été victime moi-même de déshydratation la semaine passée. Mon cerveau n'est pas encore tout à fait à la même place, comme on l'a vu tantôt. Ce qui se passe, c'est que on peut déshydrater, donc perdre de l'eau.
Oui.
De plusieurs façons. Ça peut être soit en étant malade et en vomissant, en ayant des diarrhées. Ça peut être en urinant trop. Les gens, par exemple, qui prennent des diurétiques, mais qui en prennent trop, peuvent se déshydrater.
Comme le café, par exemple.
Comme le café, comme le thé, ou qui prennent des pilules de diurétiques.
Oui.
Y a une autre façon de se déshydrater, et c'est en faisant des sports. On ne parle pas juste une petite marche là, de 20 minutes, là. Si tu vas marcher 3 heures dans le désert, ça se peut que tu sois déshydraté parce que tu perds des liquides. Alors, quand on parle d'entraînement en salle ou de course, mais d'entraînement, OK?
Oui.
En 1 heure, on peut perdre beaucoup d'eau, de 1 à jusqu'à 2,5, juste quand on est en salle.
1,5 quoi?
Litres, pardon.
Litres?
Oui, et puis au tennis.
Une personne adulte, là.
Oui, un adulte. Au tennis ou un match de soccer, on peut perdre entre 3 et 4 litres.
Wow.
C'est énorme. Alors, c'est sûr que la température ambiante, le taux d'humidité joue aussi sur la transpiration. Dans une salle où il y a dans une salle de gym, où il y a une forte concentration humaine et une humidité élevée, le sportif sue encore davantage.
Oui.
Les skieurs, les gens vont dire « Ouais, mais il fait pas chaud, on transpire pas beaucoup.
Ouais. »
C'est le froid peut déshydrater aussi.
Ah bon?
Ouais.
Sans qu'il n'y ait nécessairement de sueur?
De sueur, le froid peut déshydrater.
Ah bon?
On le voit beaucoup quand on est dehors pendant longtemps, on va avoir les lèvres qui vont gercer, par exemple. Ça, c'est un des symptômes de déshydratation.
D'accord.
Alors, il ne faut pas se fier non plus à la sensation de soif. Alors, lorsqu'on commence à avoir soif, souvent, il est déjà trop tard. On ne parle pas de dire « Ah, j'ai soif, je prends un verre d'eau, là. On est en salle ou on est en train de courir. » Et un manque d'eau altère les performances et l'endurance. Une perte d'eau de 1% de son poids en eau, donc, réduit de 10% les capacités physiques. Sans eau suffisante, la fatigue musculaire augmente et les crampes risquent de survenir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la déshydratation? C'est que le volume sanguin diminue. OK? Il y a moins d'eau. Le sang est composé d'eau quelque part aussi, là. Alors, le volume sanguin diminue. Il y a moins de sang. Ça peut moins oxygéner les muscles. Et par le fait même, eh bien, les muscles sont moins productifs.
D'accord.
Il faut boire, dit-on, avant la compétition sportive, parce que ça peut prendre un certain temps avant que l'eau n'entre dans le système. Par exemple, si vous vous levez le matin, vous vous habillez, puis vous allez courir sur un 10 km, par exemple, peut-être vous levez, prendre un verre d'eau, prendre votre temps avant d'aller courir, et là, commencez à courir pour que au moins votre système, parce que vous avez passé toute la nuit en plus là, sans boire.
Effectivement.
Alors, et le matin, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est qu'on va uriner en se levant le matin. Donc, il y a déjà une perte de liquide qui se fait à ce niveau-là. Et on dit, je vais boire un petit peu plus. On dit, est-ce qu'on doit boire de l'eau? Est-ce qu'on doit boire? Et ça, c'est intéressant parce que j'ai lu des articles qui sont écrits en Europe et on parle de boire de l'eau avec des bulles dedans. Gazéifiée.
Voilà.
Mais ils disent aussi carbonatée. Donc, cette eau-là, dit-on, va aider à absorber l'eau plus facilement. Mais on perd pas seulement de l'eau, on perd aussi des minéraux tels que le sodium, le potassium, le calcium ou le magnésium.
Durant l'exercice.
Durant cette sudation-là. Durant
D'accord.
cette perte de liquide-là. Mais on va perdre aussi des électrolytes. Et ça, c'est important, les électrolytes, parce qu'ils ont des fonctions sur les reins, ils ont des fonctions sur le foie, mais ils ont des fonctions aussi sur le cœur. Et pour un athlète, c'est extrêmement important. Une des façons dont on sait que l'on est déshydraté, Donc, évidemment, on a la sensation de soif. On peut regarder la peau va être flasque. Même mm-hmm. chez les gens qui ont une peau très tendue, les jeunes, on va voir que la peau devient flasque parce que les cellules, il y a de l'eau partout autour des cellules et dans les cellules.
Oui. Alors, n'attendons pas d'atteindre extrémité.
Non, absolument. Il ne faut pas se mettre à boire des gallons d'eau non plus parce que ça peut donner un choc au système.
Oui.
Les électrolytes, qu'est-ce qu'ils font, c'est, entre autres, chez n'importe qui, c'est qu'ils vont régulariser les battements du cœur. Alors, si on est en extrême déshydratation, on va avoir des palpitations. Et éventuellement, ça peut en venir à une fibrillation qui va mener à une crise cardiaque, un infarctus du myocarde. Alors, il faut faire attention. C'est très important de boire avant et pendant. On voit souvent dans les coureurs, dans les courses, ils courent. Il y a un point, il y a du monde avec des verres d'eau, avec des mm-hmm. bouteilles d'eau. Ils prennent 2-3 gorgées, puis ils repartent.
Oui.
Parce qu'ils ne peuvent pas... Ils ne peuvent pas prendre plus que ça, c'est dangereux.
C'est des images qu'on voit fréquemment dans les marathons, des bénévoles qui offrent de l'eau sur le parcours aux coureurs qui sont justement en plein effort.
Ouais.
Donc l'eau, source de vie. Water is life, comme disent les défenseurs de l'environnement qui se mettent dans le chemin des constructions de pipelines. Un petit parallèle acrobatique ici. Merci.
Très
beaucoup.
Acrobatique.
Merci Marie-Hélène.
Plaisir.
Rebonjour Marie-Hélène.
Rebonjour Alexis.
Alors, on se déplace en Afghanistan, non pas pour se livrer à la guérilla.
Non.
Ou se mettre en danger.
Non, mais pour parler d'un sport qui date de plusieurs siècles, qui s'appelle le Gudi Paran Basi. C'est un cerf-volant guerrier, c'est un cerf-volant de bataille.
Cerf-volant de bataille.
On retrouve le cerf-volant de bataille partout. On le retrouve en Chine, on le retrouve en Corée, mais sur différentes manières de faire. Dans tout le Moyen-Orient, dans la péninsule indienne, il y a différentes manières d'utiliser le cerf-volant. Ici, c'est plutôt un sport pour les enfants la fin de semaine. On fait voler le cerf-volant en plastique pendant 5 minutes, puis bon, c'est assez, tu sais.
Oui.
Mais là-bas, c'est vraiment quelque chose auquel on peut s'identifier. C'est quelque chose de culturel.
Et quand on dit de bataille, est-ce que c'est parce qu'ils livrent combat à d'autres cerf-volants?
Oui, okay. Absolument. Alors ici, je vais donner les types de cerf-volants aussi, là. L'information que je vous ai donnée, c'est important que je le dise, parce que la personne qui a écrit l'article, a demandé qu'on donne son nom. Alors, son nom, c'est David Sahar, qui est un docteur, là, docteur David Sahar.
Oui.
On peut le rejoindre à Dave, à commercial, Sahar, S-A-H-A-R, comme Sahara, .net.
D'accord.
Alors, lui, il a tenté d'amener ce sport-là ici mm-hmm. en Amérique. Alors, malheureusement, il y a depuis que le I est venu évidemment en Afghanistan, il y a eu des l'État islamique, oui c'est
oui.
ça.
Mais les talibans.
Les talibans, pardon, excuse-moi, c'est les talibans, oui excuse-moi.
Oui.
Pour moi c'est la même chose. ils ont fait des règlements, ils ont fait mm-hmm. des commandements, et un de ces commandements là empêchait de faire le cerf-volant, et ça a vraiment été pour les gens, surtout pour les jeunes,
oui.
ça a vraiment été un moment décisif dans le moral
oui.
des habitants de l'Afghanistan.
Donc l'islam radical interdit plusieurs choses, dont la musique.
Dont le plaisir des cerfs-volants.
Voilà, OK.
Alors, donc, c'était un hobby qui était pratiqué là, partout. C'était vraiment, ça atteint une forme de sport atteignant chez certains adeptes le niveau de l'art.
Oui.
Parce qu'évidemment, il y a le dessin qui est important. Là, il faut oui. que ça soit un beau dessin. Mais il y a aussi les grandeurs. Alors, il y a des cordes incassables qui doivent être filées mm-hmm. à la main. Et c'est même un sujet d'honneur que d'être en compétition avec les meilleurs cervolistes du voisinage.
Cervoliste.
Oui, c'est un cervoliste. C'est un mot.
Magnifique.
Alors, ça a passionné une multitude de jeunes Afghans, même durant la guerre. OK? Ils ont quand même oui. réussi à le faire. Ça a été interdit, évidemment, mais ça reprend du poil d'abeille. Alors, l'unité, qu'est-ce que c'est? L'unité, c'est l'équipe. Alors, au moins deux personnes pour voler ce type de cerf-volant-là.
Ah, oui.
Tu as la personne qui fait voler le cerf-volant elle-même, qui est le chef, et tu as l'autre qui surveille le charka, qui est la bobine dans laquelle on a passé un bâton et qui tient mm-hmm. La bobine, donc le bâton, pour permettre de dérouler. Alors, les auditeurs ne voient pas, mais je mime oui. le débobinement de la oui. bobine. Souvent, le charkagir, c'est-à-dire le gardien du fil, c'est lui qui reçoit le blâme si on perd le cerf-volant.
Ah.
Parce que c'est lui qui est qui maintient donc le lien à la terre, si on veut.
D'accord.
Alors, le gudiparan, qui est le cerf-volant, ou littéralement la poupée volante, tel qu'on l'appelle en Afghanistan, viennent en plusieurs grandeurs. Les plus petits ont entre 25 et 30 cm de diamètre, si on parle mm-hmm. d'un cercle, et les plus grands sont de grandeur d'homme.
D'accord. Donc, le but, c'est d'aller damer le pion à un autre cerf-volant qui est dans les parages. C'est ça, en gros?
C'est ça. Okay. Mais je veux finir une petite chose oui. importante. C'est qu'ils sont faits en papier fin et que c'est mis sur un squelette de bambou.
D'accord.
OK? Ça, c'est important pour la légèreté du cerf-volant,
oui.
mais aussi pour sa capacité de résister au vent. Donc, tout est extrêmement important et ça peut durer jusqu'à des heures. Évidemment, la bataille elle-même, c'est, bon, on part en même temps, un, deux, trois, go, on laisse partir les deux cerfs-volants en même temps, et aussitôt que le fil d'un des deux cerfs-volants entre en contact avec l'autre, la bataille commence.
Ah.
Ça peut durer quelques secondes. Si tu es chanceux, tu réussis à faire tomber l'autre cerf-volant.
Ouais.
Et ça peut durer même jusqu'à des heures.
Mmh.
Alors, la personne qui a le plus d'expérience, normalement, et de patience, c'est la personne qui gagnera à cerf-volant égal, qui normalement va gagner la guerre.
Ah.
Et il faut essayer, c'est tout un truc, c'est un peu comme la pêche. Il y a une stratégie où il faut que tu essaies de laisser aller suffisamment la corde
oui.
Pour pas que l'autre puisse te faire tomber. Parce que si ta corde est trop dure, elle est trop raide,
elle va se rompre.
C'est ça. Et c'est plus facile à faire tomber.
D'accord.
Et évidemment, une fois que le gagnant et le perdant sont déterminés, le dernier, donc le perdant, doit laisser aller de son cerf-volant sans direction. On coupe la corde.
Oh.
Et puis là, c'est la course.
Il doit dire adieu à son cerf-volant.
Adieu à son cerf-volant, parce que là, c'est la course.
Oui.
Et n'importe qui court pour aller chercher ce cerf-volant-là. Alors, celui qui le trouve le gagne.
OK. Même l'adversaire peut courir après.
Même l'adversaire peut y aller.
C'est un peu ouais.
un
concept
perdant
de drapeau. Là,
ouais, c'est
peu,
ça, ouais. un peu. Donc, le perdant perd son cerf-volant. Dans chaque quartier, il y a un charti qui est le champion. Et celui-là, c'est celui qui n'a jamais perdu.
Ah, oui.
Et c'est vraiment des gangs. Tu sais, je veux dire, c'est tu vois l'esprit sportif, tu vois le goaler, tu vois celui qui fait le plus de points, qui a
oui.
le meilleur temps, mais c'est le même niveau là, d'honneur.
Oui, c'est une allégorie de la guerre, finalement.
Aussi.
C'est une façon ritualisée de...
Oui.
De...
Mais chez les Tibétains, j'aurais pu en parler, on reviendra peut-être là-dessus plus tard, chez les Tibétains, ils ont même des cerfs-volants à plusieurs étages.
Oui.
Et on parle de très hautes montagnes, là. Et c'est là que ça se joue, là.
Oui.
Alors, tu peux facilement être emporté par ton cerf-volant là, quand il y a plusieurs étages.
D'accord.
OK, c'est ce que je voulais dire. Et il y a des dangers quand même à pratiquer le sport en Afghanistan parce que ça se fait sur les terrasses, sur le toit des terrasses.
Oui. Et donc, on peut chuter.
Ben oui, parce que tu regardes le ciel, tu checkes le vent. Et de nombreux garçons, évidemment, se sont cassés des os quand ils sont chanceux. Mais ça a provoqué, et ça provoque encore, des morts.
Mm.
À chaque année. parce qu'ils veulent juste aller un peu plus loin, un peu plus loin sur la terrasse, et malheureusement, c'est le drame. Alors, c'est le Gudiparam Basi qui se pratique encore maintenant en Afghanistan, maintenant qui commence à reprendre du terrain.
Fascinant, Marie-Hélène. Merci beaucoup.
Au plaisir.
À bientôt.
Les oreilles qui oublient. M'en tapis sur du tapis, si mes pieds te cassent, c'est sweet whip. Arrête donc d'apitoyer si tu peux pas taper du pied, whip. Gratte le ciel, la terre te pique, puis pas la terre, le ciel te chauffe. Gratte le ciel, la terre te pique, puis pas la terre, le ciel te chauffe. La tête, le ciel, pas de sort de tempête, ni pied, la terre a déterré mes ancêtres. Le son se fait, le drame, nature, mes pauses s'éloignent. Puis là, je fais dur. For all dans les airs, and all you can beat sur la terre. Quand le ciel, la terre te pique, puis pas la terre, le ciel te chauffe. Quand le ciel, la terre te pique, puis pas la terre. Il y a de la frime dans le jeu de mes sons, puis il y a de l'abîme à chaque coup de batteur. Du cœur au talon, du cœur au talon. Don't cheat un gars qui a du poil au menton, un bon soldat qui a de la suite dans les talons, du haut de ses pas, qui a de la fuite dans les idées, agigué à volonté, au manquet de ses deux pieds, solitaire, à bout de ses nerfs, au lieu de se taire, au lieu de s'en faire, puis d'avoir de l'air. Juste assez fou, braque et braque les deux semelles enragées sur la tente du trotteur. La trouille au ventre jusqu'aux couilles de ses pleurs. Gratte le ciel, la terre te pique, puis pas la terre, le ciel te chauffe, chauffe, chauffe. Gratte le ciel, la terre te pique, puis pas la terre, le ciel te sauve. Gratte le ciel, la terre te pique, puis pas la terre, le ciel te chauffe, chauffe, chauffe. Gratte le ciel, la terre te pique, puis pas la terre, le ciel te sauve. Gratte le ciel, la terre te pique, puis pas la terre, le ciel te chauffe. Gratte le ciel, la terre te pique, puis pas la terre, le ciel te chauffe.
Nous écoutions à l'instant la formation Bon Débarras dans Sport et Santé Magazine. Nous sommes à la mi-temps de l'émission et allons à présent passer dans la partie santé et mieux-être, et nous revenons d'abord sur les actualités qui ont ponctué la semaine. J'ai repéré pour vous quelques nouvelles intéressantes, et on commence avec une nouvelle qui nous arrive de Colombie-Britannique. 914 morts par surdose en 2016 en Colombie-Britannique. En effet, c'est la crise sanitaire dans cette province. Les surdoses liées à la consommation de drogues illicites ont fait 914 victimes en 2016 en Colombie-Britannique, ont annoncé la chef du service des coronaires, Lisa Lapointe, et le ministre provincial de la Santé, Terry Lake. Il s'agit d'une hausse de 79,2% par rapport à 2015, lorsque le nombre de décès s'était élevé à 510. En décembre 2016, le record a encore été une fois battu, le record mensuel avec 142 décès par surdose. Il s'agit d'une moyenne de 9 personnes décédées tous les deux jours, indique Lisa Lapointe, la coroner. Sur ces 142 décès en Colombie-Britannique, 51 personnes ont trouvé la mort dans la ville de Vancouver. En ce qui concerne les chiffres du mois de novembre 2016, les morts par surdose avaient également atteint des sommets.
mai avec 128 cas en Colombie-Britannique, un record jamais atteint auparavant et qui a été battu le mois suivant en décembre. Bien que ces statistiques fassent état des morts par surdose, toutes drogues confondues, le fentanyl est largement responsable de ces décès. Le nombre de morts par fentanyl, a déclaré Lisa Lapointe, n'est pas encore disponible, mais il ne fait aucun doute que la consommation de fentanyl est la première cause de mortalité. Le fentanyl est un opioïde 100 fois plus puissant que la morphine, une propriété qui est particulièrement appréciée par les trafiquants de drogue, qui peuvent ainsi dissimuler davantage de doses dans de petits paquets. Malheureusement, il s'agit d'une substance très dangereuse, indique cet article de Radio-Canada, puisqu'une dose de la taille d'un petit grain de sable peut conduire à la mort. Et toujours à propos de fentanyl et de surdose, cette fois du côté de l'Alberta, un article qui paraît également dans le portail de Radio-Canada, nouvelle stratégie pour combattre le fléau du fentanyl à Edmonton. Le service de police d'Edmonton tente de trouver de nouvelles stratégies pour lutter contre la crise du fentanyl en mettant sur pied un comité spécial de travail composé de policiers expérimentés. Malgré tout, cette drogue reste incontrôlable, ont-ils prévenu. C'est un article rédigé par Camille Ferresen dans le portail de Radio-Canada. Le fentanyl, écrit-elle, un opioïde 100 fois plus puissant que la morphine, a fauché quelques 193 vies en Alberta entre janvier et septembre 2016 et cause plus de morts que les accidents de voiture et que les homicides. Les autorités ont décidé de faire de la prévention la pierre angulaire de leur combat cette année. Parmi ces missions, il faudra principalement informer le public grâce aux campagnes médiatiques, aller dans les écoles pour parler des risques aux jeunes ou encore former les policiers qui font face à des risques sanitaires dans leur lutte contre le fentanyl. Nous ne savons pas exactement à quoi nous avons affaire, a prévenu Karen Ockerman du service de police d'Edmonton. Ce n'est pas seulement une pilule de fentanyl, elle peut prendre différentes formes, cette pilule, avoir différentes couleurs, c'est chaque fois différent. Le danger pour les policiers en intervention est d'inhaler la substance. La plupart des agents portent désormais un vaporisateur nasal de naloxone, l'antidote en cas de surdose de fentanyl. Ils doivent également être préparés à donner les premiers soins aux personnes en cas de surdose. La difficulté réside également dans le fait que cette drogue est transformée par des apprentis chimistes et transite dans les rues sans contrôle, a rappelé la policière. Quand les trafiquants mettent du fentanyl dans les pilules, c'est mal réparti. Une seule dose peut s'avérer mortelle, a-t-elle précisé. Donc vous trouverez cet article qui concerne la province albertaine et plus particulièrement le service de police d'Edmonton dans le portail de Radio-Canada. Ça s'intitule « Nouvelle stratégie pour combattre le fléau du fentanyl à Edmonton ». En santé mentale maintenant et à l'échelle du pays, un article repéré pour vous dans le journal Le Devoir, la dépression frappe durement les jeunes Canadiens. Il y a eu environ 150 000 tentatives de suicide chez les 15 à 24 ans en une seule année. C'est ce que rapporte la journaliste Isabelle Paré dans les colonnes du Devoir. La dépression frappe davantage les jeunes de 15 à 24 ans que tous les autres Canadiens et constitue désormais la deuxième cause de mortalité dans cette tranche d'âge. Pas moins de 150 000 adolescents et jeunes adultes auraient déjà tenté de mettre fin à leurs jours, selon Statistique Canada. Ce triste tableau est celui brossé mercredi, il y a quelques jours, par une nouvelle étude rendue publique sur la dépression et les idées suicidaires chez les jeunes, démontrant que les adolescents et les jeunes adultes présentent les plus hauts taux d'anxiété et de troubles de l'humeur de tous les groupes d'âge. Tiré de l'enquête sur la santé mentale menée dans les collectivités canadiennes par Statistique Canada, ces données de 2012 fixent à 11% le nombre de jeunes de 15 à 24 ans ayant souffert de dépression au cours de leur vie et à 7% ceux qui en ont souffert au cours des 12 mois précédant l'enquête. En comparaison, seulement 5% des adultes de 25 à 64 ans ont déclaré avoir traversé une dépression au cours de la dernière année. Et 2% des personnes âgées de 65 ans et plus. Ces données préoccupantes excluent en outre les jeunes vivant dans des réserves indiennes et d'autres établissements autochtones, population que l'on sait particulièrement frappée par la dépression, les idées suicidaires et le suicide. Selon l'enquête, les idées suicidaires ont traversé l'esprit d'au moins 14% des jeunes au cours de leur vie et près de 5% ont même concocté des projets de suicide. Jusqu'à 3,5% des participants ont même fait une tentative au cours de l'année ayant précédé l'enquête. Concrètement, cela signifie qu'environ 150 000 jeunes de 15 à 24 ans auraient tenté de mettre fin à leur jour à un moment ou l'autre de leur vie, insistent les chercheurs de Statistique Canada. Donc, cet article paraît sous la plume d'Isabelle Paré dans Le Devoir. La dépression frappe durement les jeunes Canadiens en date du 19 janvier. Sinon, dans le fil de la presse canadienne, un article sur le stress et les causes du cancer. Une exposition prolongée au stress au travail semble augmenter le risque de cancer du poumon, du côlon, du rectum et de l'estomac, ainsi que le risque de lymphome non hodgkinien chez les hommes, selon une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Montréal et de l'Institut national de la recherche scientifique. Les sujets de l'étude avaient occupé en moyenne 4 emplois et parfois jusqu'à plus d'une douzaine d'emplois au cours de leur carrière. Des associations significatives ont été mises en lumière pour 5 des 11 cancers concernés dans le cadre de cette étude. Elles ont été observées chez les hommes qui avaient cumulé de 15 à 30 ans, voire plus de 30 ans de stress au travail. Un tel rapport entre stress au travail et cancer n'a pas été établi chez les sujets ayant occupé des emplois stressants pendant moins de 15 ans. Parmi les emplois les plus stressants figurent les pompiers, les ingénieurs industriels et en aérospatial, les contremaîtres de mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles et de matériel ferroviaire. Chez un même sujet, la présence du stress variait selon l'emploi occupé. Les chercheurs ont été en mesure de documenter les changements dans le stress perçu au travail. Et on termine avec un article toujours paru dans la presse canadienne, celui-là à propos d'asthme. Le tiers des cas d'asthme serait diagnostiqué à tort. Une nouvelle étude suggère que près du tiers des adultes canadiens qui sont soignés pour des problèmes d'asthme ont en fait été diagnostiqués à tort ou alors se remettent déjà de la maladie. L'asthme est une inflammation chronique des voies respiratoires qui cause le souffle court, une respiration sifflante et des quintes de toux sèche. Le chercheur principal de l'étude, le docteur Sean Aaron de l'hôpital d'Ottawa, croit que certains médecins concluent rapidement à un problème d'asthme en se fiant aux simples symptômes, mais ils ne confirment pas ensuite ce diagnostic. Ce diagnostic sommaire par un test de spirométrie. Ce test diagnostique de spirométrie, simple et peu coûteux, permet de mesurer les volumes pulmonaires et les débits d'expiration. Selon le docteur Aaron, des patients chez qui l'on diagnostique de l'asthme devraient insister pour passer ensuite un test de spirométrie afin de confirmer le diagnostic. De même, les médecins devraient systématiquement procéder à ce test avant de poser le diagnostic définitif et de prescrire un traitement. L'étude a été menée auprès de 700 adultes de 10 villes canadiennes qui étaient soignés pour de l'asthme. Les résultats de l'étude sont publiés dans le journal de l'Association médicale américaine. On referme ici le bloc Actualité santé et mieux-être. L'émission n'est pas terminée. Restez avec nous. Dans quelques instants, c'est la chronique santé de la semaine. Je m'entretiens avec Julie Gagnon qui nous parle des derniers développements dans le dossier de l'aide médicale à mourir. À tout de suite. L'émission Sport et Santé Magazine se poursuit à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. C'est le moment d'aborder la chronique santé de la semaine. Je suis en compagnie de Julie Gagnon. Bonjour Julie.
Bonjour Alexis.
On parle d'aide médicale à mourir aujourd'hui.
Oui, exactement. Plus précisément du cas de Noreen Campbell, qui est une infirmière, qui est décédée jeudi dernier grâce à l'aide médicale à mourir, mais qui avait des revendications très, très, très précises quant à cette loi
D'accord.
C-14.
La fameuse loi C-14 qui a causé tant de débats et que la Cour suprême c'est la Cour suprême, en fait, qui avait obligé le gouvernement à légiférer. Et le gouvernement de Justin Trudeau, qui était en poste depuis à peine 6 ou 7 mois, a livré une loi début juin qui n'a pas fait l'affaire de tous, finalement. Et c'est le cas de cette dame qui a réussi à obtenir le droit de mourir. Mais elle avait des critiques à formuler, justement, parce que d'autres personnes qui sont à peu près dans sa situation n'ont pas obtenu ce droit.
Non, exactement. En fait, cette loi-là, qui est arrivée en juin dernier, ne fait pas l'affaire de tous, et même qu'elle ne correspond pas au jugement qui avait été fait, qui avait été rendu par la Cour suprême du Canada dans le cas de Kay Carter versus Canada, dans ce cas-là qui avait été précurseur de la loi. Et dans le fond, ce que Noreen Campbell reprochait à la loi du gouvernement, c'est que lorsque la loi a été acceptée, etc., le jour d'après, elle soumettait sa demande parce que elle souffre d'une maladie qui se nomme la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est une maladie respiratoire en phase terminale. Cette maladie-là, lui...
Le souffle me manque juste à prononcer le nom.
Absolument, c'est vraiment un très long nom en plus. Cette maladie-là, dans le fond, Noreen Campbell attendait la mort, savait que la mort allait arriver d'un jour à l'autre, pas de façon imminente, mais elle savait que, dans le fond, ces derniers jours allaient se passer en étant étouffée, ce qui est extrêmement dramatique et très, très affolant, un peu comme perspective. Donc, elle avait demandé l'aide médicale à mourir avant de se rendre à ce moment-là. Mais comme elle ne faisait pas face à une mort imminente prévisible... Ce que demande la loi, on lui avait refusé. Alors, elle a eu gain de cause... et elle a eu le droit à l'aide médicale à mourir jeudi dernier. Donc, elle est décédée. Mais ce qu'elle disait, c'est qu'elle avait envie que sa cause, que son cas, elle, soit publique pour qu'on puisse entendre les revendications de ces gens qui n'ont pas des maladies dont sont en phase terminale ou, par exemple, dont la mort est imminente et prévisible, comme des maladies dégénératives, comme la sclérose latérale amyotrophique ou la maladie d'Huntington ou des formes de démence aussi, où est-ce qu'on pourrait demander l'aide médicale à mourir avant d'arriver à un terme où, personnellement, on sent que ça va trop loin. Donc, elle a décidé de parler publiquement de sa situation pour qu'on puisse ouvrir l'aide médicale à mourir à d'autres patients qui souffrent de d'autres types de maladies qui ne rentrent pas dans la loi.
C'est une résidente de la Colombie-Britannique. Elle est ici dans notre région, la région de CILS-FM, près de Saanich, en banlieue de Victoria. Est-ce qu'il faut retoucher à la loi, alors? Est-ce que cette loi est incomplète?
Selon beaucoup de gens, le British Columbia Civil Liberties Association intente d'ailleurs une poursuite, puisque des personnes comme Julia Lamb, qu'on a vu dans les médias les derniers mois, qui souffre d'amyotrophie spinale, elle aussi revendique un droit à l'aide médicale à mourir, même si son cas ne correspond pas à la loi. Donc oui, plusieurs personnes se prononcent pour une ouverture de la loi, pour le changement, même que la famille de Kay Carter, qui avait été, comme on avait dit un petit peu plus tôt, précurseur de cette loi-là, s'est prononcée publiquement pour dire que la loi ne répondait pas à ce que le jugement avait rendu en Cour suprême et qu'il fallait ouvrir justement ces balises-là pour donner le droit à l'aide médicale à ces gens qui souffrent, qui ont très, très peur de l'avenir, parce que c'est souvent des maladies dégénératives. Donc, l'avenir est incertain, l'avenir est est extrêmement épeurant d'être prisonnier de son corps, d'être prisonnier d'une démence. Donc, ces gens-là revendiquent une modification de la loi.
Oui, ça peut même toucher les gens qui se savent atteints d'Alzheimer ou de Parkinson.
Absolument, absolument.
D'accord. Donc, cette loi est incomplète de l'avis de nombreux observateurs. Est-ce qu'on va assister à un nouveau feuilleton judiciaire et que la Cour suprême va demander au gouvernement de réviser sa copie?
Ben absolument, c'est ce qu'on peut se voir arriver dans les prochains mois avec la poursuite du British Columbia Civil Liberties, qui ont amassé des dons et qui étaient aussi un peu associés au cas de Kay Carter, si j'ai bien lu. Et la directrice aux affaires parlementaires, elle, s'est prononcée en voyant ce média, cette tollé médiatique-là sortir en disant que ils sont au courant des défis de la loi, mais qui vont y répondre en temps et lieu en cours. Donc, on peut s'attendre à un débat dans les prochains mois sur cette loi-là qui semble pas satisfaire
énormément de gens. Donc, les malades qui sont insatisfaits dans le moment peuvent à tout le moins se réjouir du fait que cette dame a obtenu le droit.
Oui.
Elle a dû elle l'a peut-être obtenu de haute lutte, et c'est assez paradoxal pour quelqu'un qui est sur le point de mourir. Il a fallu qu'elle se batte pour mourir. Bref, il y a peut-être un élément encourageant là, pour tous ces gens qui sont prisonniers et se savent condamnés. Peut-être qu'au cas par cas, davantage de personnes auront gain de cause. Tu me disais, je crois que 9 sur 10 se faisaient rejeter en date de septembre dernier. Est-ce que c'est à peu près ça?
C'est à peu près ça, oui. C'est ce qu'on a su dans les statistiques qui sont sorties en septembre dernier. De juin à septembre, il y a eu 118 personnes qui ont reçu l'aide médicale à mourir, dont 46 en Colombie-Britannique. Et ça serait à peu près un dixième des demandes qui ont été produites, des demandes sérieuses, qu'on dit dans les journaux, qui ont été envoyées pour de l'aide médicale à mourir. Donc, c'est vraiment un très petit pourcentage de gens et on s'inquiète beaucoup de ça, en fait, parce que pour plusieurs raisons, des demandes peuvent être refusées parce que, bon, les gens les formulent dans les 12 à 24 dernières heures de leur vie. Mais aussi, beaucoup de gens sont refusés parce que on voit pas la date imminente ou prévisible de leur décès. Donc, ça les laisse un peu dans un néant en attente de la mort alors qu'ils auraient droit à ces...
Et là, c'est une pure spéculation, mais peut-être que le gouvernement a été timide dans sa formulation de peur d'assister à un tsunami de demandes de mort assistée. Ils avaient peut-être peur de poursuites de la part de familles dont un membre aurait obtenu le feu vert, comme on dit. Il y avait peut-être des craintes d'emballement de la machine, si on veut, d'une augmentation subite des demandes d'aide médicale à mourir. Enfin, on le saura peut-être pas, je sais pas.
C'était quand même un des points soulevés lorsqu'il y a eu ce grand débat-là de face à l'aide médicale à mourir, de cette peur de voir arriver le tourisme médical pour l'aide à mourir, hein, comme il y a en Suisse en ce moment. On avait peur d'être victime de ça. Donc, il y a eu peut-être, oui, une forme de prudence, si on peut dire... avec cette loi-là, en la limitant, en la mettant très, très, très serrée, mais ce qui finalement résulte en une loi qui ne sert pas bien les malades et les gens souffrants, finalement. Ouais.
En attendant la loi 2.0, finalement, qui sera sans doute revue et améliorée. Julie Gagnon, un grand merci pour cet éclairage.
Merci, Alexis.